reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier.
Je suis anarchiste. Nous allons repeindre la ville, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canu si vous nous rejoignez. Il est l'heure du Canu Info, nous sommes le jeudi 9 juin 2016, nouvelle journée de mobilisation un petit peu de partout en France. Nous allons d'ailleurs commencer par en parler. Laurent reviendra sur les bonnes idées de monsieur Dominati, si j'ai tout compris, ouais. Sénateur Les Républicains hein, aussi, si j'ai tout suivi. Tu nous feras un petit tour de ni Dieu ni maître cette semaine. Nous partirons en Russie, en Malaisie pour parler répression. Et puis on reviendra sur ce qui s'est passé en Israël et sur ce qui se passe par là-bas, parce que il y a eu l'actualité. Et puis nous terminerons certainement par des informations plus radioactives. Alors je vous le disais, nouvelle journée de mobilisation. Si je commence déjà à m'étouffer dès le début, ça va pas le faire. Vous avez donc noté, hein, tous et toutes, l'omelette que M. Macron s'est pris lundi dans la tronche. Il a été largement accueilli. Il faut dire que bon, il allait à Montreuil célébrer le 80e anniversaire du Front Populaire. Il avait osé. Donc bah oui, hein, forcément, action, réaction. Ça l'a beaucoup fâché, hein, d'ailleurs. On pourrait aussi parler de l'accueil au domicile de Madame El Khomri, c'était hier matin, la semaine dernière déjà, hein, les manifestants l'avaient attendu sur le plateau de C'est à vous, une émission de France 5. On a eu une belle intervention de Monsieur Braillard, hein, qu'on connaît bien ici dans la région. Monsieur Thierry Braillard, dans la matinale RMC BFM TV, je vous rappelle, hein, il est secrétaire d'État chargé des sports, a dénoncé ceux qui se foutent de voir leur pays accueillir une grande compétition qui va générer de l'emploi et des retombées économiques extrêmement importantes. Bon, il parle des syndicats qui profitent de l'euro. Hein, bon, il parle de la CGT, hein, simplement, il ne veut pas nommer.
Oui, il a oublié de rappeler que le foot c'était de la corruption, de la tricherie, du vol, du dopage, du racisme, du sexisme. Non, il faut voir que c'est juste bien économiquement.
Ouais, alors il y en a d'autres qui sont allés s'amuser au meeting organisé par le Parti Socialiste, c'était dans le 12e arrondissement à Paris. Alors hein, était annoncé monsieur Valls, madame El Khomri, monsieur Le Foll, monsieur Cambadélis, hein, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Et une double sécurité avait été mise en place à la fois par le Parti Socialiste et par la préfecture de police de Paris, hein, tout ça pour bien s'assurer après l'histoire des œufs et de l'omelette de monsieur Macron que ça se reproduise pas. Bon, il y avait quand même eu un petit rassemblement hein, qui avait été organisé. Le slogan du jour était « Tout le monde déteste le PS hein, », repris assez fortement. Il y avait un millier de personnes au plus fort de ce rassemblement. Bon, ils ont été tenus, ils et elles ont été tenus à distance. Hein, et puis au bout d'un moment, voyant que de toute façon, il n'allait rien se passer, il y a une manifestation sauvage, comme on dit, qui s'est... Hop, qui est partie dans Paris. je voulais aussi vous donner des nouvelles de Loïc Conitro. Alors vous savez certainement qui il est. Il est membre de la compagnie Joli Môme. C'est aussi un militant de la CGT Spectacle. Il est souvent présenté comme l'un des fondateurs de Nuit Debout. Moi, je dirais qu'à la rigueur, il a fait partie avec François Ruffin des lanceurs de l'idée de Nuit Debout, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mardi, il avait été arrêté dans les locaux du MEDEF à Paris suite à une intrusion, hein, comme on dit.
Oui, il n'allait pas travailler au MEDEF, non, pas du tout.
Non. Un certain nombre de personnes ont investi les lieux. Alors, il a été blessé par un des responsables de la sécurité du MEDEF et on a appris qu'il a été libéré ce matin. Il attend un procès qui devrait avoir lieu le 5 août prochain au tribunal correctionnel de Paris. Il est poursuivi pour violence volontaire en réunion. Alors, il y a déjà un comité de soutien qui est en train de se constituer, mais au moins déjà il a été libéré. À Rennes, en réaction aux violences policières, ce sont des manifestants et des manifestantes qui se sont maquillés en blessés pour dénoncer ces violences qui sont en répétition. Je vous rappelle, à Rennes, on vous a raconté ça, la semaine dernière, les flics ont chargé les manifestants avec leur bagnole et de la bagnole, ils lançaient des lacrymos et donnaient des coups.
C'était la version moderne des voltigeurs, en fait. Ouais. Ils sont plus à moto, ils sont en voiture et ils foncent dans le tas, ils tapent dans
le tas.
C'est ça.
Ils en étaient près des journalistes, c'est aussi pour ça que ça a été pas mal relayé. Je veux pas accuser les journalistes de corporatisme, mais bon, certains médias quand même, il faut un petit peu qu'on les touche pour qu'ils causent certaines choses. Des grandes nouveautés de la semaine. Alors la CGT se débrouille bien. On accuse la CGT d'organiser les grèves par roulement. Et alors ?
Bah ouais. Du coup, ils ont mis beaucoup de temps à organiser ces fameuses grèves par roulement, mais ça a l'air plutôt efficace.
Ouais, puisque cette semaine, déjà comme la semaine dernière, nous continuons avec la grève des éboueurs. Alors, à Saint-Étienne, le ramassage a repris ce matin, après 8 jours de grève. Hier, le tribunal administratif de Lyon a ordonné l'évacuation du centre technique municipal de Montrénault, à Saint-Étienne. C'est trois syndicalistes de la CGT qui étaient devant le tribunal administratif. C'est la ville de Saint-Étienne qui avait porté cette affaire. Hier, donc, le tribunal a demandé la levée du blocage. Vers 17h, le blocage était à peu près levé. Pendant ce temps, le maire de Saint-Étienne recevait la CGT et il y a un protocole d'accord qui a été signé. Mais c'est pas parce qu'à Saint-Étienne ça s'arrête. Il faut se rendre compte aussi qu'à Saint-Étienne, il y a eu un peu une urgence parce que ça gênait un peu pour l'euro quand même. Ça a été une des grandes inquiétudes de la municipalité. Mais il se passe plein de choses ailleurs. C'est l'usine d'Ivry-sur-Seine qui est bloquée depuis 10 jours. La CGT Service Public a fait savoir que les grévistes ont reconduit le mouvement jusqu'à mardi prochain, jusqu'au 14 donc. Mais en Île-de-France, c'est pas le seul site qui est touché. Donc les poubelles, il y a plein d'endroits où donc c'est pas ramasser. Ce qui inquiète là aussi la municipalité à Paris, ça fait sale, c'est pas beau, il y a du tourisme. On va même jusqu'à utiliser l'argument que avec les crues et tout ça, c'est pas bien parce que du coup, les poubelles, vous voyez, elles sont dans l'eau et donc ça pourrit plus vite et donc tout ça. Voilà, il y a même ces genres d'arguments qui sont amenés. Alors à Ivry-sur-Seine, les agents ont décidé de poursuivre le mouvement puisqu'ils estiment que le gouvernement s'obstine, qu'il y a un refus d'ouvrir des négociations sur la loi travail. Donc, la grève se poursuit, mais si jamais il y a des négociations qui s'entamaient sur la loi travail, ils veulent bien stopper le mouvement parce qu'ils comprennent bien quand même que dans le cadre de l'euro, ils pourraient rapidement finalement nettoyer les rues. Et puis, un autre mouvement qui est bien en place, c'est dans les Bouches-du-Rhône, c'est sur l'incinérateur de Fosses-sur-Mer. Fosses-sur-Mer, ça traite les ordures ménagères de Marseille. Et il y a une grève qui s'est lancée, il y en a aussi dans l'Ariège. En fait, le mouvement dans le secteur est en train de s'amplifier. C'est-à-dire qu'on est parti du secteur public avec la CGT Services Publics et il commence à y avoir aussi des mouvements qui émergent dans les sociétés privées dans le secteur. Donc voilà, c'est aussi intéressant. Au niveau de la CGT Énergie, ça continue. Vous pouvez aller voir sur le site internet, il y a un communiqué de presse qui reprend un petit peu toutes les actions du jour au niveau national. nationale. Moi, ce que j'ai retenu, c'est la CGT Énergie 63 qui a basculé en heure creuse les abonnés à l'électricité dans le Puy-de-Dôme. 200 000 foyers ont donc bénéficié aujourd'hui d'un tarif très très préférentiel. Donc tout ça, hein, c'est décidé effectivement, évidemment, excusez-moi, après une assemblée générale. Ce matin, des militants de la CGT sont allés bloquer l'entrée du marché de Rungis. Énorme, hein, ce truc de Rungis. Donc, quand on va bloquer, ben, c'est un peu la merde. Ils étaient un millier sur place. Il y a eu des barrages filtrants, des feux de poubelle, bien évidemment. Mais bon, du côté de la préfecture, on a tenté de minimiser un petit peu toutes ces actions en disant que ça avait assez peu perturbé la circulation. Donc voilà, il y a toujours un petit peu le côté de dire finalement, il se passe rien. Ou alors, on a l'autre côté, c'est la catastrophe. Il faut absolument arrêter. Du côté de Fezin, au niveau de Total, il y a lundi une nouvelle AG qui avait décidé donc de poursuivre le mouvement au moins jusqu'à ce vendredi. Ce qui est intéressant, c'est que la direction de son côté a organisé lundi et mardi un vote auprès de l'ensemble des salariés pour savoir s'il fallait reprendre le travail. Alors, selon la direction de Total, 80% des votants seraient en faveur d'une reprise d'activité. Sauf que bon, quand on regarde un peu tout ça, on s'aperçoit que la CGTFO avait demandé à ne pas aller voter. Donc déjà, ça ne concerne pas les grévistes. Donc c'est des chiffres un peu truqués. Et puis c'est un peu une bataille médiatique pour la direction de Total Fezin. Et puis à Air France, les négociations n'ont pas abouti. Alors, pour faire très très court, les pilotes de Air France reprochent à la direction de favoriser KLM plutôt qu'Air France et de plus développer KLM et donc de réduire les vols sur Air France. Et on reproche à la direction au patronat de refuser de négocier et puis surtout de faire des propositions très très vagues. Il y a un préavis de grève du 11 au 14 juin. La SNCF, il y a aussi toujours des mouvements. Alors, c'est très variable hein, au niveau local. Sur la région, il y a quand même pas mal de grévistes. Alors, c'est chez les roulants hein, qu'on trouve le plus de grévistes et de gens le plus mobilisés. Voilà, donc évidemment, ça impacte plus que quand c'est du personnel administratif, hein, forcément à la SNCF. Donc voilà, très rapidement, un petit peu pour ces mouvements du jour. J'ai peut-être pas dit à Lyon, si, on a dit à Lyon, il y avait eu 1 500 personnes à peu près.
À la manif.
Ouais.
Mais par contre, malheureusement, il n'y a pas de grève des ordures. Peut-être est-ce parce que Kéran, Colomb et tous leurs amis du PS ont tout privatisé, hein, le ramassage des ordures et que l'entreprise qui s'en occupe n'a pas beaucoup de militants CGT, c'est peut-être ça. Mais on espère quand même qu'il y aura des choses qui vont perturber l'euro qui commence demain à Lyon.
Ouais, on espère. En tout cas, une manif où il y a eu pas mal d'animations en cours de chemin, ça aussi c'est bien, parce que quand il y a moins de monde, c'est pas mal qu'il y ait des prises de parole, des mouvements, voilà, et ça permet un petit peu de remobiliser les gens qui sont là et d'être un petit peu plus dynamique.
C'était une manif des retraités de la CGT.
Oui, mais qui avait été rejoint par d'autres,
tout court, oui.
Par d'autres militants grévistes.
Voilà pour les mobilisations, mais on va rester dans ceux qui essayent de détruire le code du travail et de nous pourrir la vie, avec l'idole du jour. L'idole du jour s'appelle Philippe Dominati, c'est un élu de droite du parti Les Républicains, et lui, il trouve qu'on travaille pas assez, donc je cite, c'est quelques petites phrases de ce charmant monsieur. La première, c'est « Les contraintes réglementaires aujourd'hui applicables en matière de travail nocturne empêchent les entreprises françaises de bénéficier des mêmes armes que leurs concurrents opérant dans d'autres États européens. » Il a continué en expliquant que les acteurs du maillon logistique des entreprises du e-commerce, c'est de ça dont il est question, travaillent en France sur une amplitude qui va de 6h à 21h, ce qui est déjà pas mal. Hein. Alors qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne, ils bossent 24 heures sur 24. Donc, je cite la deuxième phrase, « De la même façon que l'automobile française a eu les moyens de s'adapter à la concurrence européenne avec la mise en place du travail de nuit, un tel soutien économique et industriel doit se retrouver dans le secteur de la logistique du commerce électronique français. Cette mesure permettrait à la France d'être aussi attractive que ses voisins européens. » Donc voilà les propos de Philippe Dominati. Grosso modo, ce qu'il demande, c'est que les salariés puissent travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors actuellement, la loi qui est déjà très très en recul par rapport à ce qu'on avait il y a plus de 20 ans hein, sur le travail de nuit, précise que ça doit rester exceptionnel et qu'il y a deux conditions qui doivent être valables en même temps. C'est-à-dire la première, c'est qu'il y a une condition de prise en compte des impératifs de protection de santé et de sécurité des travailleurs, et une deuxième, que ça doit être justifié alors par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique. C'est sur ça qu'il s'appuie le père Dominati, ou des services d'utilité sociale. Bon, on imagine bien, on va pas que les pompiers, les hôpitaux, tout ça travaille la nuit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc l'idée de Monsieur Dominati, c'est que ça se généralise et qu'on puisse faire travailler les salariés sur la seule condition que ça soit nécessaire pour assurer la continuité de l'activité économique. Avec cette explication-là, dès qu'on a une entreprise, quel que soit de l'endroit du monde, qui travaille un peu plus qu'ici, eh ben on peut s'aligner sur celle-là. C'est ce qu'il veut. Il oublie quand même un truc, c'est que le travail de nuit est donc voilà sous la forme classique, par exemple des 3-8, hein, est très nocif sur la santé des salariés. Alors ça, a priori, lui, la santé des salariés, il s'en fout. Hein, ce qu'il veut, c'est que le patron de l'entreprise gagne de l'argent, que le salarié soit en mauvaise santé, voire pire que ça, hein, parce que ça augmente plein de risques, notamment des risques de cancer, parce qu'il y a des fatigues chroniques, il y a des impacts directs sur la fatigue, sur la sociabilité, sur plein de choses, et indirects qui sont importants. Il y a eu pas mal d'études hein, au moins 30 ans sur le travail en 3-8, le travail de nuit, le travail à horaire décalé, le travail à horaire non régulier, hein, parce que c'est pas toujours les mêmes gens qui travaillent de nuit, etc. Et alors ça, lui, il s'en fout totalement de la santé des salariés. Au contraire, il milite pour que la santé des salariés se dégrade. Et il se fout aussi de la vie sociale des salariés et même des parents, hein, parce qu'en tant que élu républicain de droite qui défend l'idée de la famille, il trouve ça normal que quelqu'un travaille, par exemple, tous les jours de 17h à 5h du matin, je sais pas quelles sont les amplitudes, donc avec des gens qui travaillent et qui ne voient pas leurs enfants, hein, puisque voilà, quand on travaille tard et qu'on se couche, qu'on arrête à 5-6 heures du matin, ben on en rentrant on va se coucher, on voit pas les enfants et on les voit pas le soir. Donc ça, bizarrement, pour un militant de la famille traditionnelle réactionnaire, il s'en fout. Hein. Comme quoi, l'économie est plus importante que la famille réactionnaire qu'il défend par ailleurs d'habitude. Alors, faut savoir quand même que ce charmant sénateur, Monsieur Dominati, il est administrateur d'une société qui s'appelle Téléperformance et il s'était fait connaître puisque il avait empêché ses salariés d'aller aux toilettes. Pour aller aux toilettes, il fallait envoyer un mail. Vous imaginez, vous êtes à un poste de travail, il faut envoyer un mail, et ils avaient noté que la réponse de l'employeur dépassait une heure, deux heures, trois heures. Donc quand vous avez besoin d'aller aux toilettes, c'est un peu compliqué. Ce qui rêve sûrement, c'est comme ça a été dénoncé sur certaines entreprises, d'obliger les gens à venir avec des couches, hein, pour se faire pipi dessus et caca dessus, puisque ça évite de faire des pauses et donc de faire perdre de la productivité à l'entreprise. Voilà la vision qu'a Monsieur Philippe Dominati. Alors, c'est un amendement qui va passer au Sénat. Ça passera sûrement pas en retour. De toute façon, c'est intégré donc dans la loi El Khomri. Et comme au retour, la loi El Khomri, elle peut pas passer à l'Assemblée, qui vont la faire passer en 49-3. Tout ce qui a été voté en plus au Sénat, ça gicle d'office. Mais bon, c'est symboliquement, ça donne une bonne idée hein, de ce que rêvent les élus de droite du Parti Les Républicains. Alors je vais continuer dans les idées de droite, puisqu'on va faire cette petite rubrique ni Dieu ni maître, qui nous parle de la religion, et jusqu'à preuve du contraire, la religion est 99 fois sur 100 du côté de la droite, en tout cas au niveau des idées réactionnaires, bien évidemment. Alors le premier truc un peu ridicule et honteux, c'est la police nationale à cheval, française. Vous avez déjà vu des policiers à cheval là, en France? Alors il paraît qu'il y en a, il n'y en a pas à Lyon, enfin je n'ai jamais vu, mais il y en a à Lille. Ils se préparent pour l'Euro, hein, ils ont prévu d'emmener les chevaux, taper sur les supporters peut-être, ou encadrer les supporters en tout cas. Et ben ils ont fait bénir les chevaux par la communauté, la paroisse de l'Emmanuel. Donc c'est un peu la honte quand même. Alors il y a eu une inauguration républicaine mi-avril de cette troupe de police montée, mais ils voulaient aussi être bénis de manière catholique ou chrétienne, parce que je sais pas du tout ce que c'est cette paroisse de l'Emmanuel. Enfin voilà, ça fait quand même très très peur. Voilà, on en est à faire bénir des chevaux. Alors dans la série ça fait peur, les propos des religieux, je vais vous parler de l'archevêque de Chypre. Ah, j'ai trouvé un nouvel ami. enfin plutôt un ennemi d'ailleurs. Donc il s'appelle Christostomos II, hein, parce qu'il y a dû en avoir un premier avant. Je ne sais pas comment ça se passe chez ces gens-là, si c'est de père en fils ou si c'est juste un nom. En tout cas, Chypre a voté, enfin l'île et les habitants de Chypre ont voté il n'y a pas longtemps, le dimanche 22 mai. La victoire est allée aux conservateurs, donc à la droite, avec 30% des voix, et il y a pour la première fois depuis très longtemps, et peut-être depuis la première fois dans l'époque moderne en tout cas, le Front Populaire National, ELAM ça s'appelle, un parti d'extrême droite assez proche des néo-nazis d'Aube Dorée, a déjà eu un score honorable et a deux élus qui rentrent en élus de Chypre. Bon, ça c'est une constatation. Donc c'est un parti qui est néo-nazi classique, contre l'immigration, il veut sortir de l'Union Européenne, un peu le même discours qu'Aube Dorée qu'on peut connaître. Et ben cet archevêque orthodoxe, parce qu'ils sont orthodoxes à Chypre, donc Christostomos II, il a parlé d'ELAM au sujet de l'entrée donc de l'extrême droite au Parlement, et il a dit, je cite, je ne croyais pas qu'ils y entreraient, mais je peux dire que je suis satisfait. D'autres voix pourront maintenant se faire entendre. Ah, bon, il soutient. Alors, c'est pas la première fois que Christostomos II soutient l'extrême droite, puisqu'il avait dit il y a quelque temps que la plupart des idées des militants d'extrême droite, d'ELAM, sont, je cite, claires comme du cristal et reflètent les siennes. Donc effectivement, l'église officielle, donc orthodoxe Chypre, penche du côté de l'extrême droite. Vous allez me dire, c'est pas original hein, pour les églises. On connaît ça encore aujourd'hui dans l'église d'Espagne qui continue de soutenir l'extrême droite espagnole. Et ailleurs, je vous en parle pas, mais c'est à peu près pareil. Et alors, c'est pas le propos sur les idées politiques de M. Barbarin, parce qu'on va parler de M. Barbarin, qui lui aussi se situe à la droite dure, hein, on le connaît, M. Barbarin, il soutenait la manif pour tous, il est très homophobe, finalement, dans les idées qu'il défend. Et hier, ce petit moment de plaisir, quelque part, il est arrivé hier matin dans le commissariat à Lyon, dans le cadre de l'enquête de au moins deux des enquêtes en cours sur les non-dénonciations de faits de pédophilie qui sont reprochées à des faits qui sont reprochées à des prêtres de son diocèse hein, qu'ils ont déplacés, qu'ils ont cachés, etc. Vous connaissez toute l'histoire, des choses qui datent déjà d'un petit moment, mais que l'Église c'est bien nous, on n'a pas voulu en parler quoi. Elle a duré 10 heures cette audition, donc quelque part ça nous fait un petit peu plaisir quand même. Alors il paraît qu'il a rien caché, qu'il a tout dit, qu'il a tout expliqué, etc. Bon, il est malheureusement quelque part convoqué pour une audition libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas placé en garde à vue et pas mis en examen. Et pour l'instant, puisque nous attendons que le procureur de la République, qui est le bras armé de la justice par les politiques, par l'État, hein, par là-haut, hein, ça vient de là-haut, du coup, décide de son sort. Donc, il y a plusieurs actions possibles. Hein. Il peut ne rien faire. Il peut le poursuivre. J'ai dit trois, je me rappelle plus de la troisième parce que j'avais en tête il y a une demi-seconde, j'ai oublié. Mais en tout cas, les deux grosses possibilités, c'est soit laisser tomber, soit le poursuivre pour ses non-dénonciations. Alors, c'est arrivé une seule fois hein, en France qu'un prêtre, un archevêque, un évêque même, a été poursuivi pour non-dénonciation. C'était Monseigneur Piquant en 2003. Il a pris 3 ans de prison avec sursis. Donc on attend, on espère quelque part, même si on n'est pas pour que les gens passent devant la justice et aillent en prison, mais quelque part ça nous ferait plaisir que Barbarin passe par la case justice et voire par la case prison. Ce qu'on notera quand même, c'est qu'il y a une très grosse différence de traitement entre les manifestants, les militants, qui luttent contre la loi El Khomri, qui prennent de la prison, et puis certains ecclésiastiques, certains religieux français qui ont quand même réellement caché et protégé des pédophiles et qui pour l'instant échappent à la loi, échappent aux condamnations. Et là on peut le dire, l'affaire Barbarin elle a été révélée il y a un petit moment, avant les manifestations contre la loi El Khomri, et il est toujours pas ni condamné, ni poursuivi, ni quoi que ce soit, alors que les manifestations contre la loi El Khomri, il y en a déjà pas mal qui sont passées par la case prison. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que va dire le procureur de la République, voir si l'État français soutient, protège l'Église catholique encore aujourd'hui, puisque ça va dépendre de ça. Logiquement, je ne vois pas moi pourquoi il ne serait pas poursuivi, puisqu'il y a quand même d'énormes éléments qui démontrent qu'il y a eu non-dénonciation à la police. Ça, c'est sûr. Et ça tombe sous le coup de la loi. Même si Barbarin se protège en disant que c'est pas dans leur tradition de balancer. Ça dépend qui. Donc, on va voir finalement ce que fera le procureur et donc ce que pense quelque part Hollande et les autres à la tête de l'État sur l'Église catholique française aujourd'hui. Voilà pour ces petites infos, ni Dieu ni maître.
Alors on parlait de Piotr Pawlenski, on vous a déjà parlé de Piotr dans cette émission. Allez chercher dans votre mémoire, c'est un performeur russe un peu dingue. Hein. En 2013, il s'était cloué à la peau des testicules sur la place Rouge. En 2012, en soutien au Pussy Riot, il s'était cousu les lèvres. Il s'est aussi coupé un lobe de l'oreille devant l'institut psychiatrique Sberski. Enfin, voilà, ça vous dit peut-être, ça y est, cette fois quelque chose. Et puis on en avait parlé aussi parce qu'il avait foutu le feu à la porte d'entrée du FSB, les renseignements intérieurs, ce qui lui avait donc valu une arrestation. Et donc un petit procès. Hier, il a été libéré, mais il s'est pris une amende par un tribunal de Moscou. Le tribunal l'a reconnu coupable d'avoir endommagé un site du patrimoine culturel. De son côté, ses avocats faisaient valoir que la porte en question n'était pas la porte d'origine. Donc côté patrimoine, on peut peut-être en rediscuter.
Mais le FSB, c'est un patrimoine lui-même. Les descendants du KGB. Tout. Il ne faut pas toucher à ça.
Alors, oui, c'est un peu ça hein, quand même. Hein. Ouais. Voilà. Alors, il s'est pris une amende de 500 000 roubles. Ça fait à peu près 6 700 euros. À la base, l'amende était de 1,5 million. Elle a été donc baissée par le juge qui a estimé qu'il avait déjà passé 7 mois en détention.
C'était déjà pas mal.
Ouais. C'était déjà pas mal. Hein, donc, voilà. Alors, on peut se dire quand même que finalement, il s'est pris qu'une amende. Bon, il a quand même passé 7 mois. Mais je veux dire, cette condamnation, elle est sur une amende.
Ce qui est relativement faible en ce moment en Russie.
Ouais. Donc, bon, lui, il dit à ça, quand on lui demande pourquoi il a été libéré, il dit c'est parce que le masque hypocrite de l'humanisme, c'est ce que présente en fait la justice russe, et qu'en fait, il essaye d'en tirer profit. Alors, tirer profit de Piotr Pawlenski, mon avis, il faut quand même se lever de bonne heure. Il avait indiqué de toute façon que son procès n'était qu'une farce. Il avait demandé à être jugé pour acte terroriste. Alors, il n'a pas fait ça juste parce qu'il aime un petit peu les trucs dingues, mais c'était en soutien, en solidarité à deux militants ukrainiens qui s'en étaient pris à un bureau d'un parti pro-russe en Crimée. Ils avaient été condamnés l'année dernière, donc c'était une solidarité. Ça n'a pas marché, hein, sa demande. Alors, le problème, c'est que cette amende, pour l'instant, lui, il ne peut pas la payer, mais ça pose problème parce que qui dit ne pas payer l'amende dit aller en prison.
En prison, bah oui.
Voilà. Surtout qu'il a fait savoir qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait un fonds qui soit levé pour lui, parce qu'il ne voulait pas que ça aille à la Russie. Enfin, vous voyez, à l'État, à la justice. Donc bon, je ne sais pas comment il va se débrouiller. Hein. Il va trouver des solutions. Piotr Pawlenski, ça fait un moment déjà qu'il fait face à la répression. Et puis, on va partir en Malaisie. On va parler de Fami Reza. Fami Reza, c'est un caricaturiste, un dessinateur, un graphiste, qui lui aussi a déjà eu affaire à la justice plusieurs fois. Et il a lancé un concept, un clown, la bouche et le nez rouge, le visage est blanc, il y a des sourcils qui sont très très épais, et franchement il a pas l'air sympa ce clown, et il a fait de ce clown des pastiches du premier ministre Najib Razak. Ce premier ministre, peut-être que vous le savez, mais il a quelques casseroles au pied, il est accusé de corruption, il est poursuivi dans 9 pays hein, pour détournement d'argent. Simplement, ce premier ministre n'aime pas bien qu'on le critique. Alors, Fami Reza a été arrêté samedi, alors que a priori, il y avait une vente de t-shirts avec l'effigie du clown. Lundi, il a été inculpé d'infraction à la législation sur le multimédia pour avoir caricaturé en clown donc le premier ministre. Alors, La justice se base sur la loi contre la sédition qui a été mise en place en 1948. C'est une loi assez floue pour qu'on puisse bien l'utiliser comme on veut dans le cadre de la répression. C'est une législation qui a été élargie en 2015 aux médias sur Internet. Et puis il y a une deuxième loi qui s'appelle la Security Offense Act qui permet la détention et l'emprisonnement sans l'ordre du juge. Hein, voilà, vous voyez un petit peu pour le contexte. Il faut dire aussi qu'il va y avoir une nouvelle campagne législative en 2018. Donc, on commence déjà à museler l'opposition, on commence à museler les critiques. Voilà, reste que Fahmi Reza lui aussi fait savoir, comme Piotr Pawlenski, qu'il n'allait pas lâcher l'affaire. Il risque un an de prison et une amende de 10 750 euros. C'est quand même pas mal aussi, tout ça pour avoir le droit de s'exprimer librement et de donner son avis et de critiquer un Premier ministre qui est poursuivi, je vous le disais, quand même dans 9 pays. Donc, je vous ai dit casseroles, c'est même plus que ça. C'est carrément la lessiveuse à l'arrière.
Alors, on reste dans l'international et on va partir du côté d'Israël-Palestine. Donc, vous avez peut-être entendu hein, qu'il y a eu un attentat donc mené par deux cousins d'une vingtaine d'années hein, qui se sont déguisés en personnes respectables, hein, costume-cravate. Ils sont rentrés dans un restaurant et ils ont tué des gens. Donc ça c'est pour l'attentat. Donc c'était des Palestiniens qui étaient rentrés illégalement en Israël. Ils étaient ils habitent dans un village proche de Hébron, en Cisjordanie. Alors c'est pour donner les circonstances, une situation où ils vivent les brimades, l'oppression, l'humiliation au jour le jour, ce qui peut expliquer, sans justifier d'ailleurs, hein, leur comportement. Aller jusqu'à tuer des gens. Ils en sont là. Alors les réactions sont un peu partagées en Palestine. Le Hamas y allait. Alors au départ, il n'y a pas de revendication, hein, parce que c'est vraiment une action. C'est des actions désespérées en ce moment hein, des Palestiniens qui n'ont plus rien à perdre, qui sont prêts à faire n'importe quoi pour essayer de démoraliser finalement les Israéliens, puisque de toute façon ils peuvent pas gagner militairement. Donc ils en sont à ces sortes d'actions suicides, d'actions désespérées. Bon, le Hamas a sorti une belle bêtise dont j'ai perdu le nom, mais comme c'était le premier jour du Ramadan, ils ont fêté ça quelque part. Donc bon, c'est relativement triste. Le FPLP, donc le Front Populaire de Libération de la Palestine, a décrit les meurtres comme une réponse naturelle aux exécutions menées par l'occupation sioniste. C'est pas donc un propos qui est là pour apaiser la situation. En même temps, je vois pas pourquoi ils apaiseraient la situation, puisque eux, ils en prennent plein la gueule tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Ça ne fait pas avancer de toute façon les choses. On notera quand même que l'autorité palestinienne, elle, est sur le discours inverse, en disant qu'elle n'accepte pas les opérations qui visent des civils. Ce qui est à mon avis une bonne remarque aussi, puisque faire un attentat à Tel Aviv, qui est une ville relativement ouverte par rapport à ce qu'il peut y avoir dans le reste d'Israël, c'est peut-être pas attaquer les bonnes personnes, mais enfin quand on est désespéré palestinien, on fait ce qu'on peut où on peut, et on vise là où c'est visible et où ça fait mal. Alors ça, c'était donc il n'y a pas eu encore de conséquences de l'attentat, mais tout le monde attend la réaction un peu de Netanyahou, et de son ministre d'extrême droite que vous connaissez tous. Et alors pour l'instant, après les consultations au sein du gouvernement, ils ont décidé d'annuler les 83 000 autorisations délivrées à des Palestiniens de Cisjordanie qui venaient sur l'esplanade des mosquées. Vous savez que le Ramadan a commencé, du coup il y a une partie des Palestiniens qui viennent sur ce lieu saint, soi-disant saint de l'islam. Du coup, donc, ils mettent en place cette interdiction pour ces 83 000 personnes qui avaient des autorisations jusqu'à maintenant. Une punition collective. Hein. Je rappelle qu'au niveau international, les punitions collectives sont interdites. Hein. On peut punir les personnes qui ont fait un acte répréhensible. On n'a pas le droit de punir ni sa famille, ni les gens de son peuple, de son ethnie, de sa religion, de je ne sais quoi. Or, ce que fait Israël assez régulièrement, c'est punir la famille. Hein, ça on l'a déjà vu plein de fois, les destructions de maisons familiales notamment, et là c'est une punition collective et c'est une punition collective pour humilier les Palestiniens une fois de plus, parce que c'est pas logique, puisque ces jeunes là sont pas rentrés avec une autorisation, Ils sont rentrés illégalement. Donc en fait, ces 83 000 autorisations qui sont annulées, si ça avait été pris comme décision avant, ça aurait rien changé. Donc c'est totalement inutile, c'est juste une humiliation supplémentaire, même si c'est fait pour avant tout pour assurer les Israéliens et puis la branche voilà ses alliés de droite et d'extrême droite qu'il a au sein de son gouvernement aujourd'hui, Benjamin Netanyahou, il est essentiellement entouré de l'extrême droite. Oui, il est obligé de prendre des mesures très à droite, voire à l'extrême droite systématiquement, même si on n'a pas encore les réponses définitives, puisque ça c'est les premières mesures mises en place par Israël. On n'est pas à l'abri d'autres choses. On sait qu'il y a des militaires, puisqu'il y a plusieurs bataillons qui sont à nouveau allés se positionner en Cisjordanie, donc qui ont envahi encore un bout de Cisjordanie supplémentaire. Deux bataillons, ça fait 600 militaires, voilà, ça peut emmerder plusieurs dizaines de milliers de personnes, humilier plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ouais, et après, c'est logique qu'il y ait des réactions hein, de la part du peuple palestinien si on est dans l'action-réaction systématiquement. À savoir que ces derniers temps, il y avait un petit peu moins d'actions désespérées des Palestiniens. Et que ça n'empêchait pas que, même s'il y a moins d'actions désespérées des Palestiniens, à aucun moment Israël n'a lever ces humiliations permanentes, notamment l'occupation de 80% de la Cisjordanie. Hein. Donc on sait d'où vient finalement l'étincelle qui amorce à chaque fois tout ça. Ça vient malheureusement à chaque fois d'Israël. Je suis désolé pour eux, mais c'est quand même eux qui sont à l'origine finalement, indirectement, de ces actions ou de ces attentats. Donc voilà pour la situation israélo-palestinienne. Toujours aussi triste. On a l'impression de répéter toujours la même chose en fait, malheureusement.
Un petit peu d'environnement en Allemagne d'abord.
Oui, non, mais deux petites infos. Alors, l'Allemagne fait une espèce de bilan en ce moment. Parce qu'ils ont voté une nouvelle loi sur l'énergie, notamment l'énergie électrique, sur l'avenir. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'avenir? On se rappelle qu'ils doivent sortir du nucléaire très bientôt. Ils ont commencé déjà. Donc là, au mois dernier, ils ont lancé plusieurs initiatives qui renforcent un truc qui s'appelle l'Energiewende. C'est les économies d'énergie, l'efficacité énergétique, grosso modo. Puisqu'ils ont des projets relativement ambitieux, enfin même carrément ambitieux, puisque d'ici 2050, donc c'est assez rapide, hein, c'est assez proche, on va dire, dans 34 ans, l'Allemagne ambitionne de réduire de moitié sa consommation d'énergie. On sait, alors, du coup, d'ailleurs, c'est intéressant parce que leur discours, et le discours notamment du ministre allemand en charge de l'énergie, qui s'appelle Sigmar Gabriel, il a dit que l'énergie la plus propre et la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. C'est drôle, enfin c'est drôle. C'est le même slogan qu'a l'association Négawatt depuis des années. Alors par contre, aucun ministre français n'a jamais repris cette idée-là. Bien évidemment, en France, on n'est pas du tout dans ce trip d'économie d'énergie, mais on sait qu'il y a effectivement à peu près 50% d'économies d'énergie réalisables par les économies et par l'efficacité énergétique. Donc il y a un énorme réseau de négawatts, de watts négatifs qu'on n'a pas besoin de fabriquer. Donc ils ont un nouveau programme assez ambitieux qui a été lancé, donc un programme de sobriété. On rappelle quand même que l'Allemagne a des chiffres positifs sur la production d'énergie renouvelable, hein. 32% de la production allemande l'année dernière était due au renouvelable, mais par contre 44% est due aux centrales à charbon. Il n'y a pas d'augmentation de centrales à charbon, hein, contrairement à la propagande qu'on peut entendre de ci, de là. Mais par contre, il y a toujours 44% de la production faite par du charbon, ce qui est énorme comme nuisance sur l'environnement, sur les gaz à effet de serre, essentiellement d'ailleurs le CO2 et d'autres gaz d'ailleurs toxiques qui sont émis par les centrales malgré les filtres présents sur les cheminées. Mais on ne peut pas récupérer le CO2, en tout cas ça ne marche pas. Alors, dans ce programme ambitieux hein, de l'Allemagne, il y a la question des renouvelables. Et le renouvelable commence à poser problème en Allemagne. Et il y a l'idée de ralentir un petit peu le développement des renouvelables. Alors, pas parce qu'elles seraient trop importantes, mais parce qu'elles commencent à coûter cher. Il faut savoir qu'actuellement, comme en France, c'est le cas, et comme dans pas mal d'autres pays, pour soutenir les renouvelables, il y a eu une aide de l'État. Et ça commence à coûter cher. Et l'idée, c'est de baisser au fur et à mesure cette aide de l'État pour limiter le développement des projets de transition énergétique. Non pas pour les stopper, parce que le but, c'est que à 2050, il y ait 80% du mix énergétique électrique qui soit fourni par du renouvelable en Allemagne. Donc ils ont, c'est un vrai programme quand même fort et ambitieux. Mais il y a l'idée que ça coûte, que ça commence à coûter trop cher. Alors un petit peu à l'État, puis surtout aux ménages hein, qui achètent l'électricité, puisque c'est eux qui payent le financement du renouvelable. Ceci dit, ça me paraît très logique que le prix soit jusqu'à présent plus cher, mais ce qui va plus être le cas, puisque dans l'idée, et ils le disent pas dans la formation, mais c'est quand même que effectivement il faut baisser les aides, ben, ça paraît logique, puisque d'ici quelques mois, les renouvelables en Allemagne auront un coût de production plus bas que le reste des centrales. Hein. Le nucléaire, c'est déjà fait. Que le charbon, ça va bientôt être fait. Du coup, dès cette période-là, les investisseurs capitalistes, eh ben, ils vont préférer investir dans du renouvelable plutôt que dans du charbon ou dans du gaz, parce que c'est plutôt du gaz dans les investissements actuels. Donc, la tendance risque de s'inverser naturellement par le système capitaliste. C'est ce qui sera une aide supplémentaire à la transition énergétique, en tout cas en Allemagne. C'est pas de chez nous dont il est question, bien évidemment. Et puis maintenant, le petit mot de chez nous, en lien avec tout ça, avec EDF. Et alors, je vais faire un truc capitaliste, purement capitaliste, et parler de Standard & Poor's. Vous savez, c'est ces agences de notation. Donc il y a Standard & Poor's, il y a Global Rating, il y a Moody's. Donc eux, ils ont déjà déclassé la note d'EDF, ce qui fait plaisir. Et ben là, c'est Fitch, la dernière, vous savez, c'est qui, je crois qu'il y a une origine française, qui a déclassé aussi EDF, qui est passé de A à A-. À cause de l'endettement à long terme de l'entreprise. Alors il y a plein de critiques purement capitalistes. Hein. Là on est dans le jeu capitaliste pur sur une perspective qui est pas du tout en progression mais qui est stable quand même, notamment au niveau de l'argent que dispose EDF. Faut dire que EDF a beaucoup revendu d'actifs, donc ça a fait un peu rentrer d'argent, parce que je pense qu'ils n'avaient pas fait ça, ils seraient descendus plus bas dans les notations des agences capitalistes de notation des entreprises. Mais ce qu'on note quand même, c'est qu'ils reprochent un peu la même chose que les écolos peuvent reprocher, c'est-à-dire bah, les investissements qui économiquement sont pas profitables à l'entreprise. Alors le rachat obligatoire d'Areva, hein, qui va coûter une blinde, même si l'État va, enfin vous allez payer et nous payons 3 milliards pour ce rachat, ça va coûter quand même très cher à l'entreprise, ça coûtera pas que 3 milliards. L'EPR, les deux EPR d'Hinkley Point en Angleterre, qui vont fournir une électricité qui sera plus chère que tous les renouvelables qu'on peut disposer en Europe. Donc voilà, finalement, même les capitalistes disent que la stratégie, et on le savait déjà, mais c'est une information supplémentaire, disent que cette stratégie n'est pas forcément rentable sur le plan financier. C'est quand même les trois grosses agences qui ont un discours purement capitaliste qui critiquent EDF. Alors je vous parle pas si on rajoute le discours écolo, EDF il reste plus rien. Donc voilà pour ces petites infos environnementales et radioactives. On va parler un peu de culture.
Oui, nous sommes allés au théâtre. Et oui, ça nous arrive de temps en temps dans ce Canu Info. Et nous sommes allés au théâtre de la Croix-Rousse. À la Croix-Rousse, donc. Et nous sommes allés voir Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin. Un spectacle de la cordonnerie. Alors, on va tout de suite vous prévenir. Nous avons une certaine amitié pour cette compagnie de théâtre.
Donc là, c'est le spectacle est mis en scène, monté, imaginé par Samuel Hercule et Mathilde Veillargance. Samuel qui a été un animateur de Radio Canu il y a quelques années.
Alors on aime aussi beaucoup hein, ce théâtre de la Croix-Rousse.
Hein, et puis le concept de,
voilà.
De
alors, des spectacles. Le concept, effectivement, la cordonnerie propose un spectacle dans lequel vous avez deux instrumentistes sur scène. Vous avez donc Samuel et Mathilde qui sont là aussi sur scène.
En comédien bruitiste.
Et qui vont doubler un film qui est projeté. Le film est créé, conçu, imaginé par la cordonnerie, donc c'est un spectacle global. Et alors c'est ce Blanche-Neige, une petite merveille, à la fois au niveau des détails, du jeu sur scène, des idées. Alors il y a déjà tous ces objets hein, qui vont faire les bruitages.
Ouais. Alors, parce que t'as pas redit quand même, c'est le sous-titre c'est Blanche-Neige
ou la chute du mur de Berlin.
Donc ça se passe en 1989.
Tout à fait. C'est vrai qu'on aurait pu aussi commencer par là. C'est ça, c'est donc Elisabeth, la belle-mère qui a 42 ans.
De Blanche-Neige.
La belle-mère de Blanche-Neige qui va raconter ce qui s'est vraiment passé.
Entre elle et Blanche-Neige.
Et Blanche-Neige.
C'est pas du tout l'histoire Disney, bizarrement.
Non, et Blanche-Neige est une punk rebelles qui mangent du chewing-gum adolescente. Et c'est donc belle maman qui l'élève seule depuis que le papa est parti et que la maman a disparu.
Et le miroir parle. Et dit, le miroir tu es la plus belle, un peu comme dans
et
l'histoire.
Là, et voilà. Et donc elle habite dans une cité qui s'appelle le Royaume.
Voilà, parce que le miroir dit tu es la plus belle du Royaume.
Vous aurez compris à notre ton que nous avons été emballés par ce spectacle. Donc, je vous le disais, donc il y a des objets qui viennent donc bruiter le film. Hein, le film, il est muet. Samuel et Mathilde vont donc doubler les personnages. C'est absolument fabuleux. Ils arrivent à doubler plusieurs personnages à l'écran.
Plusieurs voix, ouais.
Avoir plusieurs voix. Et en même temps qu'ils doublent, Mathilde, elle est fabuleuse. Elle arrive à jouer en même temps ce qui se passe aussi dans le film, à lui donner corps, c'est-à-dire pas juste être là avec sa voix, mais elle est là aussi avec son corps. Et donc, Samuel va utiliser beaucoup d'objets, Mathilde aussi, mais Samuel en utilise beaucoup, beaucoup, avec une idée absolument merveilleuse, c'est ce tapis roulant qui fait défiler jusque
les objets pour
au
faire
centre
les bruits,
de la scène. Les objets dont Samuel va se saisir pour faire les bruitages pendant le film. Il y a autant d'objets qu'il y a de bruits. Ça passe par des objets qui parfois ont une utilité. Par exemple, Mathilde va utiliser une manche de blouson qui va permettre de faire le bruitage des vêtements, d'un sac de couchage. Mais il y a aussi des objets qui vont avoir du sens, qui vont être en lien avec ce qui se passe à l'écran. Par exemple, il y a un moment où ils font du bruit avec des sacs à dos. Ils pourraient très bien avoir pris autre chose, mais comme le sac à dos est aussi à l'écran, bah, ça participe. Et puis, il y a des objets qui sont là, on va dire pour le fun, pour le plaisir du geste. Ce petit docteur Maboul, vous vous souvenez de ce jeu qu'il y avait quand on était gamin?
Ça fait la sonnerie du réveil. Longtemps.
Voilà, ça faisait la sonnerie du réveil. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées, vraiment des objets absolument fabuleux, des idées fabuleuses.
Ouais, ils ont retrouvé quand même des objets des années 80 pour faire l'animateur. Enfin, ils écoutent la radio, donc Sam parle dans une sorte de micro.
Vous
avec
savez,
un
pour
truc
les enfants,
enfant, là.
Voilà, avec le
My First Sony,
les
alors j'ai dit une marque, voilà. Tant pis, mais voilà. First Sony, voilà. Et tout comme ça est très bien fait. Et puis il y a les bruitages traditionnels où pour faire la pluie on prend une sorte de paquet de chips là, qu'on secoue et ça fait le bruit de la pluie.
Tout, hein, ça y passe, hein, ça peut être le papier bulle, ça peut être plein de petites choses, voilà, donc tout est là. Si, il y a le papier bulle à un moment. Et puis il y a la musique très présente, qui est aussi très très chouette, qui est très belle, qui accompagne très bien
Alors, y a toujours
le film.
Timothée Joly au piano, au clavier, à ces choses-là, hein, essentiellement d'ailleurs au piano. Et puis une batteuse qui rythme beaucoup.
Ouais, une percussionniste.
Et, ouais, et qui fait aussi de la guitare d'ailleurs, hein, pour quand la jeune fille écoute de la musique au casque, avec des vieux casques des années 80. Hein, les détails sont vraiment très bien faits dans ce film.
Où on y retrouve un tout, hein, de la barquette, on va dire plein de marques, mais en même temps, ouais. Du sac mammouth à.
Ils ont retrouvé un sac mammouth.
Au viandox, en passant par la barquette plante à faim. C'est plein de petites choses vraiment. Il y a le souci du détail, le goût, hein, de cette recherche, on le sent. C'est là à l'écran, du décor, du costume. Et puis c'est quand même assez exceptionnel d'arriver à doubler aussi bien en étant sur scène ce film. Ça, c'est absolument magnifique. Hein, déjà, cette idée est déjà très très belle, mais en plus, c'est vraiment une très belle réalisation, une très belle exécution sur scène.
Alors, pour le coup, le concept de la cordonnerie sur ces spectacles, c'est toujours le même. C'est-à-dire, on prend un conte pour enfants et on le transpose.
Ou pas pour enfants, parce que Frankenstein, le résultat était plus un spectacle jeune public, mais Frankenstein, à la base, n'est pas forcément pour les enfants.
Oui, mais là, quand même.
Mais le rendu était jeune public. Ce qui n'est pas le cas pour Blanche-Neige ou La Chute du mur de Berlin.
Voilà. Et ça reste, du coup, un spectacle accessible dès 5-6 ans, je pense. Et puis, ça va jusqu'aux adultes, puisqu'on y voit plein de choses. Il y a plein de degrés de lecture, hein, niveau de lecture, en tout cas. C'est accessible à tout le monde. Et c'est vraiment super bien. Alors, là, il joue juste encore demain soir.
Ouais, j'ai oublié de vérifier s'il restait des places. Mais en tout cas, ça vous coûte rien de regarder.
Mais surtout, ils reviennent.
Avec un autre spectacle.
L'avant-dernier.
Avec Hansel et Gretel, ça sera au mois de décembre et toujours au théâtre de la Croix-Rousse. Allez-y, je sais pas, réservez vos places. C'est vraiment vraiment une très belle compagnie qui fait. On dit pas ça parce que on les aime bien. On avait été moins emballés par exemple par Frankenstein parce que justement c'était plus jeune public, ça nous correspondait peut-être moins. Mais ce spectacle Blanche-Neige ou La Chute du mur de Berlin est vraiment fabuleux et Hansel et Gretel, on attend nous le découvrir puisqu'on l'a encore pas vu au mois de décembre. Le théâtre de la Croix-Rousse qui a une très belle programmation pour la saison 2016-2017. C'est vraiment très très intéressant ce qui se passe dans ce théâtre. Et puis de faire confiance encore à une fois à cette compagnie, la Cornonnerie, qui tourne beaucoup, hein, oui, qui
c'est énorme.
Maintenant a fait son trou, mais bon, voilà, ça faisait longtemps aussi qu'ils étaient là, donc c'est assez justifié, assez normal. Voilà, donc allez au théâtre.
Enfin, allez, sortez, vivez.
Oui, mais allez au théâtre, c'est bien aussi.
C'est vrai, ça change un peu. Je crois qu'on a quasi fini. Tu
et on va terminer par une belle journée. Ça va se passer samedi, place Colbert, entre 11h et 16h30. C'est une journée d'info et de solidarité avec les migrants et les migrantes de Vintimille. C'est une journée organisée par la CGA de Lyon et tiens bon la pente. Alors, il y aura un repas de quartier dès midi. Il y aura une formation juridique à partir de 14h sur le droit des étrangers et des discussions sur les luttes en cours. Il y aura aussi de la musique acoustique. Et puis toute la journée, il y aura une zone de gratuité pour les vêtements. Hein, donc vous apportez et vous prenez ce que vous voulez. Hein, comme ça, voilà, il faut du moins que c'est en bon état. Il ne s'agit pas de se débarrasser de ces fonds de tiroir pourris. Et puis il y aura parallèlement à cette zone de gratuité une collecte de tout ce qui peut être nourriture non périssable, de matériel de couchage, d'hygiène, des sacs à dos, tout ce qui peut être aussi médical. Ça sera aussi voilà, de 11h à 16h30. Que vous dire de plus à part de venir?
Oui, c'est pas la première fois que la CGA organise du soutien à ce qui se passe sur le côté des migrants du côté de Vintimille, hein, en Italie, ouais. Enfin sur la frontière, on va dire franco-italienne. Donc voilà, ça marche bien. Alors vous allez me dire, on pourrait soutenir les migrants, il y en a partout. Bon là, c'est une action locale qui semble efficace pour aider ces migrants, hein, parce qu'on sait que les frontières se ferment et qu'ils ont vraiment besoin d'aide, parce que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de se déplacer en Europe quand on est migrant.
Ouais, puis à la différence de notre gouvernement ou d'autres, hein, qui piochent et sélectionnent d'une manière bizarre les gens qui vont soutenir, on sait aussi que chez les militants et les militantes, bah, y a des connexions internationales et que c'est ces connexions qui font qu'à un moment, bah, on se met à avoir une solidarité plus précise avec certains militants, avec là, en l'occurrence, les migrants de Vintimille. C'est aussi ça qui se passe. C'est une solidarité internationale et c'est aussi ce que moi je trouvais intéressant dans cette journée.
Voilà, puis c'est l'occasion aussi d'avoir pas mal d'informations et de reparler de l'idée de vivre dans des endroits où il n'y a plus de frontières.
Et puis c'est un moment aussi pour utiliser l'espace public, celui qui nous appartient, et pourtant on nous emmerde tellement dès qu'on veut l'utiliser.
Voilà, et qui n'est pas privatisé par des entreprises privées, voilà, pour accueillir des gens qui vont regarder des matchs de foot.
Et ça, c'est plus le côté de Tiens-moi la pente. Alors on va vous dire que Tiens-moi la pente a déposé une demande, donc normalement l'association a le droit d'être sur cette place. Mais vous savez, hein, le droit de nos jours, c'est pas bien. Voilà, mais en tout cas, soyez nombreux et nombreuses, je pense que ça va être une bonne journée.
Voilà, ben on va se quitter. Je voulais souhaiter un bon courage à toutes celles et ceux qui passent le bac, hein, puisque les épreuves vont commencer. Alors vous allez me dire, les grands médias n'ont pas parlé, c'est normal. Les grands médias pensent que le bac commence avec l'épreuve du philo du mercredi 15, qui aura lieu donc la semaine prochaine. Mais en fait non, les épreuves du bac ont déjà commencé. C'est des choses très importantes pour certaines formations. Donc bon courage à celles et ceux qui passent cet examen qui ne sert pas à grand chose mais qui est indispensable quand même. Donc c'est le côté ambigu du système des examens français, européens et mondiaux. Donc voilà, bon courage.
Ciao ciao, bonne soirée et pas à la semaine prochaine.
Ah oui.
Et non, parce que comme chaque année, il y en a un, vous avez compris, j'ai dit un, qui moi. S'en va
côté de la musique
bruyante, la tête dans un endroit où il y a beaucoup beaucoup de bruit. Voilà. Donc on se retrouve dans 15 jours. Alors peut-être que je serai là, je ne sais encore pas en fait.
Ah oui, t'as peut-être.
On verra bien. Ouais. Allez, ciao ciao.
Bye bye. Et juste après, c'est l'émission sur les prisons.
Oui, la petite cuillère. Ils progressent, ils reviennent comme la peste. Ils s'immiscent, ils s'en